Chapitre 3. Le nouveau camarade de pension. Ce fut par un jour froid et humide du mois de janvier que Tom retourna à sa pension, jour tout à fait en rapport avec cette dure phase de sa destinée. S'il n'avait pas eu dans sa poche un morceau de sucre candy et une miniature de poupée hollandaise pour la petite Laura, pas un seul rayon de plaisir ne serait venu animer la tristesse générale. Mais il aimait à penser comment Laura avancerait ses lèvres et ses petites mains à la vue du sucre candi, et afin de donner plus de vivacité à ce plaisir imaginaire, il sortit le paquet, fit un petit trou au papier et mordit un ou deux cristaux, ce qui eut un effet si consolant que pendant la route, enfermé sous la capote du cabriolet, il répéta plus d'une fois ce procédé. « Eh bien, Taleva, nous sommes bien aises de vous revoir, » dit cordialement M. Stelling. « Ôtez votre manteau et venez dans la salle d'études jusqu'au dîner. Vous y trouverez un bon feu et un nouveau camarade. » Tom sentit une agitation de malaise en se débarrassant de ses châles et autres enveloppes. Il avait vu Philip Wakem à St. Ogg's, mais avait toujours détourné les yeux aussi promptement que possible. Il lui paraissait désagréable d'avoir pour camarade un garçon contrefait, même si Philip n'eût pas été le fils d'un méchant homme, car Tom ne voyait pas comment le fils d'un homme méchant pourrait être bon. Son père, à lui, était bon, et Tom se serait très vite battu contre quiconque aurait dit le contraire. Il se trouvait dans un état d'embarras mêlé de dispositions hostiles, tandis qu'il suivait M. Stelling à la bibliothèque. « Voici un nouveau compagnon auquel vous pourrez serrer la main, Taleva, » dit ce dernier en entrant dans la chambre. « Maître Philip Wakem. Je vous laisse ensemble pour faire connaissance. Vous vous connaissez déjà quelque peu, je suppose, car vous êtes du même voisinage. » Tom eut l'air gauche et confus, tandis que Philip, se levant, le regarda timidement. Tom ne désirait point s'avancer pour lui tendre la main, et n'était nullement préparé à lui dire « Comment vous portez-vous » après une si courte introduction. M. Stelling se retira sagement et ferma la porte. La timidité des garçons se dissipe en l'absence des personnes plus âgées. Philip était à la fois trop fier et trop timide pour s'avancer vers Tom. Il pensait, ou plutôt sentait, qu'il en était regardé avec malveillance, car presque tout le monde, croyait-il, le regardait ainsi, et sa difformité était plus évidente lorsqu'il marchait. Ils restèrent donc sans se toucher la main et même sans parler. Tom s'approcha du feu et se réchauffa, lançant de temps à autre des regards furtifs sur Philip, qui paraissait dessiner sans grande attention sur un papier placé devant lui. Il s'était rassis, et tout en dessinant, pensait à ce qu'il pourrait dire à Tom, et essayait de vaincre sa propre répugnance à faire les premières avances. Tom en vint à regarder plus souvent et plus longtemps le visage qui était en face de lui, et en réalité ce n'était point un visage désagréable, seulement il avait l'air très âgé. Tom fut curieux de savoir de combien Philip était plus âgé que lui. Un anatomiste, un simple physionomiste même, aurait vu que la difformité de Philip n'était pas un défaut de naissance, mais le résultat d'un accident. Mais vous ne pouvez pas attendre de Tom qu'il sût faire une semblable distinction. Pour lui, Philip était simplement un bossu. Il se figurait vaguement que la gibbosité du fils de Wakem avait quelque rapport avec la coquinerie du procureur, dont il avait si souvent entendu son père parler avec une vive éloquence. Et il éprouvait aussi une espèce de crainte que ce ne fût un de ces êtres rusés qui, ne pouvant se battre avec les gens, tâchent de leur nuire par astuce. Il existait dans le voisinage de l'académie de M. Jacobs un tailleur bossu qui était regardé comme un personnage très peu aimable et que son mauvais caractère exposait aux huées des garçons malicieux de la rue, ce qui pouvait donner quelque fondement à l'opinion de Tom. Pourtant, aucun visage n'aurait pu moins ressembler à celui de ce tailleur que le visage mélancolique de Philip. Les cheveux bruns qui l'encadraient étaient ondulés et frisaient à l'extrémité, comme ceux d'une jeune fille. Tom trouvait que cela faisait vraiment pitié. Ce Wakem, cet individu pâle et chétif, ne serait capable de jouer à aucun jeu dont il valut la peine de parler. Mais il maniait son crayon avec une facilité digne d'envie. Il avait l'air de dessiner sans aucune peine. Que dessinait-il? Tom, tout à fait réchauffé maintenant, avait besoin d'un nouveau passe-temps. C'était certainement plus agréable d'avoir un compagnon même méchant et bossu que de rester seul à battre les pieds contre les murs en regardant tomber la pluie derrière la fenêtre de la classe. Il pouvait un jour survenir quelque événement, une dispute ou autre chose, et Tom pensait qu'il serait content de montrer à Philippe qu'il ferait bien de ne pas essayer de lui jouer de ses tours malicieux. Il quitta tout à coup le foyer et regarda le papier de Philippe. « Tiens, c'est un âne avec des paniers, et un épagneul, et des perdrix dans le blé, » s'écria-t-il, sa langue étant complètement déliée par la surprise et l'admiration. « Oh, ma foi, je voudrais bien pouvoir dessiner comme ça. Je dois apprendre le dessin pendant ce semestre. Je m'étonne si je pourrais jamais savoir faire des chiens et des ânes. » « Oh, vous pourrez en faire sans apprendre, » dit Philippe. « Je n'ai point appris à dessiner. » « Pas appris, » dit Tom émerveillé. « Mais quand je fais des chiens et des chevaux, les têtes et les jambes ne réussissent jamais, quoique je puisse très bien voir comment elles devraient être. Je puis faire des maisons et toutes sortes de cheminées, des cheminées qui vont tout le long du mur, et des fenêtres sur le toit et de toutes sortes. Mais je suppose que je pourrais faire des chiens et des chevaux si je l'essayais sérieusement, » ajouta-t-il, réfléchissant que Philippe pourrait faussement supposer qu'il allait se rabaisser s'il était trop franc au sujet de l'imperfection de ses talents. « Oh oui, » dit Philippe, « c'est très facile. Vous n'avez qu'à bien regarder les choses et puis à les dessiner plusieurs fois. Ce que vous ferez mal la première fois, vous le corrigerez la seconde. » « Mais est-ce qu'on ne vous a pas enseigné quelque chose ?» dit Tom, commençant à soupçonner que le dos contourné de Philippe pourrait bien être la source de facultés remarquables. « Je croyais que vous aviez été pendant longtemps à l'école. » « Oui, » dit Philippe en souriant, « on m'a enseigné le latin, le grec, les mathématiques, la littérature et d'autres choses. »« Oh, mais je pense que vous n'aimez pas le latin, n'est-ce pas ?» dit Tom en baissant confidentiellement la voix. « Pas trop. Je n'y tiens pas beaucoup, » dit Philippe. « Ah, mais peut-être vous n'êtes pas encore arrivé à propie quae maribus, » dit Tom en remuant la tête de côté, comme pour dire « c'était la pierre de touche » et qu'il était facile d'en parler. Jusqu'à ce que l'on en vînt là. Philippe sentit une amère satisfaction de la bêtise que promettait ce grand garçon si bien fait et à l'air actif. Mais rendu poli par sa propre sensibilité excessive, autant que par son désir d'être agréable, il retint son envie de rire et dit tranquillement « J'ai fini la grammaire, je ne l'étudie plus. » « Alors vous n'aurez pas les mêmes leçons que moi, » dit Tom avec un sentiment de désappointement. « Non, mais je pense que je pourrais vous aider. » Je serai très content de le faire, si je le puis. » Tom ne dit pas « je vous remercie », car il était tout à fait absorbé dans la pensée que le fils de Wakeham ne paraissait pas un individu si malicieux qu'on aurait pu s'y attendre. « Eh bien, » dit-il peu après, « est-ce que vous aimez votre père ?»« Oui, » dit Philippe en rougissant fortement. « Est-ce que vous n'aimez pas le vôtre ?»« Oh oui, je voulais seulement le savoir, » dit Tom. Assez honteux de lui-même, depuis qu'il avait vu Philippe rougir et paraître mal à l'aise. Il trouvait beaucoup de difficultés à éclaircir ses idées à l'égard du fils du procureur Wakeham, et il lui était venu en pensée que si Philippe n'aimait pas son père, ce fait contribuerait en quelque chose à trancher la difficulté. « Est-ce que vous prendrez des leçons de dessin à présent, » dit-il, « pour changer de sujet ?»« Non, mon père veut que je donne tout mon temps à d'autres choses maintenant. » « Quoi, le latin, Euclide et ces choses-là ? » ?»« Oui, » dit Philippe, qui avait cessé de dessiner et appuyait sa tête sur sa main, tandis que Tom, penché en avant et reposé sur ses coudes, regardait le chien et l'âne avec une admiration croissante. « Et cela ne vous fait rien ?» dit Tom, avec beaucoup de curiosité. « Non, je suis bien aise de savoir ce que tout le monde sait. J'étudierai ce qui me fera plaisir plus tard. » « Je ne puis pas comprendre pourquoi il faut apprendre le latin, » dit Tom. « Ça ne sert à rien. »« Cela fait partie de l'éducation d'un jeune homme comme il faut, » dit Philippe. « Tous les jeunes gens bien élevés apprennent les mêmes choses. »« Comment ? Croyez-vous que Sir John Craik, le propriétaire des meutes, sache le latin, » dit Tom, qui avait souvent pensé qu'il aimerait à ressembler à Sir John Craik. « Il l'a appris sans doute quand il était jeune, » dit Philippe, « mais je suppose qu'il l'a oublié. »« Oh bien !» « J'en pourrais faire autant alors, » dit Tom, sans aucune intention épigrammatique, mais réellement satisfait à l'idée que, en tant que cela concernait le latin, il n'y avait point de difficulté pour lui à ressembler à Sir John Craik. Seulement, on est obligé de s'en souvenir tant qu'on est dans la pension. Sinon, on a à étudier bon nombre de lignes, de morceaux choisis. Monsieur Stelling est très exigeant. Le saviez-vous? Il vous fera répéter plus de 10 fois si vous dites « nam » au lieu de « yam ». Il ne vous laissera pas passer une lettre, c'est moi qui vous le dis. « Oh, ça m'est égal, » dit Philippe, incapable de s'empêcher de rire. « Je me rappelle facilement les choses, et il y a quelques leçons qui me plaisent beaucoup. J'aime bien l'histoire grecque et tout ce qui a rapport aux Grecs. J'aurais aimé à être un Grec et avoir combattu les Perses, puis à être revenu à la maison écrire des tragédies, ou bien m'être fait écouter de tous par ma sagesse, comme Socrate, et être mort glorieusement. » Philippe, vous voyez, ne manquait pas du désir de pénétrer ce barbare bien bâti d'un sentiment de sa propre supériorité intellectuelle. « Tiens, est-ce que les Grecs étaient le grand combattant ?» dit Tom, qui vit la chose à ce point de vue. « Y a-t-il quelque chose comme David, Goliath et Samson dans l'histoire grecque ? Ce sont les seuls passages que j'aime dans celle des Juifs. » Oh, il y a une quantité de récits de ce genre sur les Grecs, sur des héros des temps anciens qui tuaient les bêtes féroces comme le faisait Samson. Et dans l'Odyssée, c'est un superbe poème, il y a un géant étonnant, Polyphème, qui n'avait qu'un œil au milieu du front. Ulysse, un petit individu, mais très sage et très rusé, fit chauffer un tronc d'arbre et le lui planta tout brûlant dans cet œil, ce qui le fit beugler comme un millier de taureaux. « Oh, quelle farce !» dit Tom, en quittant la table d'un bond et frappant le plancher tantôt d'un pied, tantôt de l'autre. « Écoutez, pouvez-vous me raconter toutes ces histoires ? Parce que je n'apprendrai pas le grec, savez-vous. « Est-ce que je dois l'apprendre » ajouta-t-il, s'arrêtant dans son trépignement de pied, subitement alarmé que cela pût arriver. « Est-ce que tous les hommes apprennent le grec ? Croyez-vous que M. Stelling me le fasse commencer ? Non, je ne le pense pas. « Ce n'est pas probable, » dit Philippe. « Mais vous pouvez lire toutes ces histoires sans savoir le grec. Je les ai en anglais. »« Oh, c'est que je n'aime pas à lire. Je préfère que vous me les disiez. »« Mais seulement celles des combats, vous savez. Ma sœur Maggie veut toujours me raconter des histoires, mais ce sont des bêtises. Celles des filles sont toujours comme ça. »« Pouvez-vous me faire beaucoup de récits de bataille ?»« Certainement, » dit Philippe. « Une quantité, outre celles des Grecs. » Je puis vous parler de Richard Cœur de Lion et de Saladin, et de William Wallace et de Robert Bruce et de James Douglas. J'en connais à n'en pas finir. Vous êtes plus âgé que moi, dit Tom. Mais quel âge avez-vous? Moi j'ai 15 ans. J'en aurai bientôt 14, dit Tom. Mais je recèle tous ceux de chez Jacobs. C'est là où j'étais avant de venir ici. Et je les surpassais tous pour tirer et grimper. J'aimerais que M. Stelling nous permît d'aller à la pêche. Je vous montrerai ce que c'est que de pêcher. Vous pourriez pêcher, n'est-ce pas? Il n'y a qu'à se tenir droit et rester tranquille, vous savez. Tom, à son tour, désirait faire pencher la balance en sa faveur. Ce Philippe ne devait pas croire que ses connaissances en histoire de combat dussent le mettre de pair avec un héros de bataille actuel tel que Tom Tulliver. Philippe se cabra sous cette allusion à son incapacité pour les amusements actifs, et répondit presque aigrement, « Je ne puis souffrir la pêche. Je trouve que les gens ont l'air d'imbéciles en restant à surveiller une ligne des heures de suite, ou bien à la lever et à la lancer sans rien prendre. » « Ah, mais vous ne diriez pas qu'ils ont l'air d'imbéciles quand ils amènent un gros brochet, je vous assure, » dit Tom, qui n'avait jamais de sa vie rien pris qui fût gros, mais dont l'imagination était amplifiée par son indignation et son zèle à soutenir l'honneur de ce plaisir. Heureusement pour l'harmonie de cette première entrevue, on les appela pour le dîner, et Philippe n'eut pas le temps de développer ses vues peu saines au sujet de la pêche. Tom se dit intérieurement que c'était tout juste ce qu'il devait attendre de la part d'un pareil garçon.